descendre aussi bas. Vous avez sans doute l'habitude, mais moi, ça me répugne.
Je suis stupide, mais c'est pas grave, parce que j'écoute Radio Campus. Tu n'as pas droit à FM. We shall destroy
the humanoid. Radio Campus.
Vous en avez pas marre?
Votre 7 à 8 cinéma, tous les mercredis sur Radio Campus 88.3 FM.
Avec nous, venez faire le plein de bobines. Rendez-vous à la prochaine séance. Alors, on se fait un film.
Le mercredi, de 19h à 20h, sur Radio Campus 88.3 FM.
Et bonsoir, chers auditeurs, bienvenue. Vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans. Et maintenant, c'est l'émission consacrée à l'actualité cinématographique. Et je ne suis pas toute seule. Comme d'habitude, j'ai le plaisir d'avoir avec moi, Gob. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Je voulais dédier l'émission à une actrice italienne. Qui m'est chère pour des raisons de souvenirs personnels, qui s'appelle Gina Lollobrigida, qui nous a quittés il y a peu de temps. Voilà, c'est Gina Lollobrigida, pour moi, c'est un de mes premiers souvenirs cinéphiliques. J'étais ado et je commençais à regarder les ciné-clubs dans ma petite chambre, sur ma petite télé d'ado. Et j'avais vu un film formidable qui s'appelle « Ce merveilleux automne », qui est un film de 1968 de Mauro Bolognini, où elle joue une femme d'un peu plus de 40 ans qui est trahie et humiliée par un jeune bellâtre. Et ce film, il est absolument magnifique. C'est un film, je pense, qui ne repasse jamais. Et c'est bien dommage. Et voilà, moi, c'est un de mes premiers grands souvenirs des mois cinéphiliques. Voilà, donc je salue la mémoire de Gina Lollobrigida.
Eh ben merci pour cet hommage. Et Claude, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et Moïse, tu as eu raison de faire un hommage à Gina Lollobrigida.
Est-ce que tu peux baisser un peu ton micro parce qu'on t'entend pas
très... Tu as eu raison de faire un hommage à Gina Lollobrigida, qui était une grande actrice, très discrète, contrairement à ce qu'on pense, qui était très réservée dans sa vie privée, mais grande actrice.
Tout à fait.
Eh bien, c'est en plus la première émission de l'année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, donc bonne année.
Oui, c'est vrai. Bonne année à tous et à toutes. Et une année qui va être chargée, je pense, parce que vu le rythme des sorties et des films intéressants à voir, je pense qu'aucun cinéphile normalement constitué ne peut arriver à suivre, même Emmanuel, qu'on salue, du coup. Faites vos choix dans toutes les sorties intéressantes hebdomadaires.
Oui,
et on va peut-être vous y aider.
Oui, on va essayer.
Il ne faut pas oublier nos petits camarades absents, Emmanuel, Fabien et Michel, oui, que nous saluons bien bas.
Et en introduction, donc je vais aussi vous proposer une date pour l'agenda. Et c'est donc la prochaine programmation de la bande de l'écran qui organise une nuit du cinéma au Cinéma des Carmes. Avec à l'affiche donc trois films pour cette soirée, cette nuit. Et donc je vérifie parce que j'avais.
On peut même parler de la nuit.
On peut même parler de la nuit. Enfin, ça se termine, je suppose. Alors attends, je vérifie.
Vers 1h du matin, quelque chose comme ça.
Oui, quelque chose comme ça, parce que j'ai pas la durée du dernier film, Les Petites Marguerites. C'est 1h14, donc 23h15, minuit 15. Minuit et demi. Oui. Minuit et demi, 1h. Voilà une nuit du cinéma qui se termine.
Une petite discussion après, 1h.
On va dire 1h du matin pour cette nuit du cinéma, donc qui est prévue ce samedi 4 février. Et vous aurez donc la chance de pouvoir découvrir ou redécouvrir trois films. Il y a Vanda, en premier à 19h, un film réalisé par Barbara Loden.
Qui était à l'époque la femme d'Elia Kazan.
Oui.
Oui. Mais en tout cas, c'est une réalisatrice. Ensuite, à 21h40, Peau de vache de Patricia Mazui, avec notamment Sandrine Bonheur.
Patricia Mazui, qui est une grande réalisatrice, et je me souviens de un de ses derniers films qui s'appelait Sport de femme.
Yep, effectivement. Et du coup, je termine, pardon, je regarde en même temps. Je n'avais pas noté la programmation entièrement. Et donc, on termine cette nuit du cinéma avec Les Petites Marguerites, un très beau film à 23h15.
Et rare.
Et très, très rare. Et normalement, la copie a été restaurée. C'est ce que j'avais entendu il y a quelques mois. J'espère que ce sera le cas pour la version projetée donc samedi. Donc, un film, Les Petites Marguerites, un film de Vera Chitilova. C'est un film vraiment incroyable. En noir et blanc et qui suit deux jeunes filles qui expérimentent dans leur quotidien, leurs relations. C'est pour l'époque, parce qu'il date de quand, j'ai pas la date ici.
67.
Ah merci, ouais. 67, et pour l'époque c'était très osé, et je dis bravo.
Je ne t'avais pas trompé, Céline, en te disant d'aller découvrir ce film.
Oui, je suis ravie de l'avoir découvert, parce qu'il est, il est vraiment intéressant. Donc c'est ce samedi 4 février au Cinéma des Carmes, et donc avec le premier film qui est à 19h, donc de 19h à 1h du matin. Allez voir ces trois films. Voilà, je vais te laisser la main du coup, enfin le micro, Claude, pour parler, parce que tu as été au festival Premier Plan à Angers, comme chaque année. Merci d'y aller pour nous rendre compte des prochains réalisateurs et réalisatrices, car c'est un festival du premier film. Et donc, tu y as été et t'en as pensé quoi ?
J'en ai pensé que, d'abord, il y a toujours un thème qui se dégage à Angers. Et cette année, beaucoup de réalisateurs ont mis en scène des couples. Alors des couples, soit hommes-femmes, soit copains, frère-sœur, et qui questionne sur que partage-t-on dans un couple, quel que soit ce couple. Et c'est le thème qui est abordé dans beaucoup enfin, pratiquement 5 ou 6 films importants du festival. Cette année, je n'ai pas eu de coup de cœur comme il y avait les Points desserrés l'an passé, Sous le soleil de Coutesi, qui est vraiment un ovni, mais des films extrêmement bien, je veux dire, écrits, avec des scénarios extrêmement solides, avec des personnages très étudiés, très fouillés. Donc un vrai travail. Sur des mises en scène, bon, très, très classiques, il n'y a pas de grande folie sur le plan de la mise en scène, sauf un film qui est un film France Inter qui bon est un bon film. C'est Aftersun qui va sortir là,
qui sort aujourd'hui,
qui est un film fait par une Écossaise qui s'appelle
Charlotte Wells
et qu'on a vu en Skype de New York parce qu'elle n'était pas pu être présente à Angers. Alors moi je dis que c'est un film elle a une vraie écriture cinématographique. C'est l'histoire d'un père qui est divorcé, séparé, et qui va en vacances avec sa fille 8 jours dans un club en Turquie. Et ce qui est intéressant, quand elle montre leur relation, pour montrer il est bien évident qu'on ne peut pas avoir une relation avec sa fille si on la voit tous les jours, si on la voit tous les 15 jours ou si on la voit une fois par an. Et cette distance, elle le met extrêmement bien en lumière, pas par des paroles, mais par la mise en scène et par le choix de ses plans, avec des plans de grande profondeur, des silences. Et je crois qu'elle a vraiment une vraie écriture cinématographique. Bon, c'est un premier film, mais c'est un film intéressant. La Palme à Angers est un film iranien. Alors je dirais que c'est un bébé d'Angers, parce qu'il avait été au scénario il a fait l'atelier d'écriture de scénario à Angers, qui est une aide à promouvoir son premier film. Ça s'appelle Chevalier Noir, film qui a été récompensé à Marrakech, parce que cette année, qui était présidée par Paolo Sorrentino, grand réalisateur italien. Chevalier Noir, qui est une histoire entre deux frères. C'est du déjà vu. Ils vendent de la drogue en Iran, bon, c'est déjà vu. Et la fin est, je veux dire, pas exceptionnelle. Et le réalisateur que j'ai rencontré m'a dit, mais c'est pas ma fin, c'est la fin du producteur. Le producteur est intervenu dans le film et c'est sa fin et pas la fin du réalisateur. Bon, c'est pas un cas unique. Hein. Je peux vous citer Police en France, hein, avec Maïwenn.
Oui, enfin, remarque là, c'était mieux justement pour Police que la production, oui. Donne son avis sur le montage du film. Pour Police, c'était plutôt bénéfique.
Oui, oui, tout à fait, c'était bénéfique.
Ça peut l'être.
Oui,
non, mais
croire qu'en France, les producteurs sont uniquement des gens qui donnent de l'argent. Ils ont une connaissance du cinéma. Non, non, mais ta remarque est tout à fait judicieuse. Alors, autre film qui, lui, a eu le prix du public, Chien de la casse, qui est un film en rapport entre deux copains, avec une relation assez toxique, comme dit le réalisateur que j'ai rencontré, et qui a eu le prix, et qui va sortir au mois d'avril. Un autre film qui m'a beaucoup, interrogé, qui est Fifi, c'est d'ailleurs l'acteur a eu il est cité ce film au titre de la récompense du premier prix pour l'interprétation masculine, et qui est Quentin Dolmer, qui fait une interprétation magnifique. Et Fifi, c'est la rencontre entre une fille qui vit dans des HLM et un garçon qui fait une école de commerce. Et ce qu'ils partagent, c'est leur interrogation sur leur vie future. Et celui qui est le plus armé n'est pas celui qu'on croit. Donc c'est un film riche l'écriture est liée aux personnages qui sont extrêmement fouillés. Ce garçon qui a fait la Fémis, il l'a fait avec sa copine qui, elle, n'avait pas fait d'études, qui est une femme charmante. Il a mis 7 ans pour le faire quand même. Et j'ai discuté avec des réalisateurs. Souvent, ils mettent 4, 5, 6 ans pour faire un film. Alors, ils font autre chose entre-temps, mais ils mettent très longtemps pour faire un film. Et alors, il y a un film que je vous recommande quand il va sortir au mois d'avril, c'est Nos cérémonies. Je le recommande particulièrement à Xavier, parce que c'est un film sur la fantasmagorie. Et ce film, moi, j'ai rencontré le réalisateur, je lui ai dit que son film n'était pas lisible, et je ne vous le raconterai pas. C'est deux jeunes qui jouent au jeu de la mort, et on ne sait pas qui est mort ou pas mort. Et en plus, pour nous, c'est joué par deux frères. Et pour nous troubler un peu plus, il fait jouer l'aîné par le cadet et le cadet par l'aîné. Donc, il y a de quoi être perdu dans son film. Et j'ai lu les critiques à sujet de ce film. Pas un critique n'a vu réellement
la même chose.
Il a vu le film. Donc, son film, pour moi, n'est pas lisible. Donc, je demanderai... Quand il sortira.
Gob, tu devras le décrypter.
Pour parler des films qui sortent à l'heure actuelle... Je vais vous parler de deux films. Donc, After Sun, je viens d'en parler. Mais il y a surtout La Montagne. Moi, autant je n'avais pas aimé Vincent n'a pas d'écueil de Thomas Salvador. Je vais trouver ça un peu... pas très abouti. Autant là, moi, je ne suis pas un fan des films fantastiques. Là, je suis... Je vous recommande d'aller voir, parce qu'il y a des grands moments de cinéma.
Je pense qu'on aura l'occasion de reparler du film.
Ah oui, je pense. Ici. C'est pour ça. De grands moments de cinéma. Et un autre film que j'avais vu. Ce film, je l'avais vu à La Roche-sur-Yon. Et un autre qui sort, c'est Dounia, princesse d'Alep, dont j'ai déjà parlé.
Nous en avons déjà parlé.
Les vacances arrivent avec les petits-enfants. Allez voir ce film avec vos enfants. Allez voir avec vos enfants. C'est un film magnifique. Je n'ai pas lu de critique à sujet de ce film, mais c'est un film qu'il faut... Les
critiques sont très positives, semble-t-il.
Oui, oui. Bon, j'en ai. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'interview d'une, qui est Vicky Luengo, qui est une actrice espagnole, qui est nommée au Goya, qui nous a parlé de sa profession comme rarement j'ai entendu parler d'acteur de cinéma. Et j'ai rencontré aussi Anthony Barjon, qui joue dans La Prière, qui est un garçon, quand il parle de son métier, on est subjugué. J'en dis pas plus.
Eh bien...
On enchaîne sur l'actualité.
Oui, on enchaîne sur l'actualité, mais avant juste...
La Montagne ou After Sun, c'est l'actualité, il passe, là.
Oui, ah, mais oui, oui. Okay. Ah, mais, non, mais c'est très bien. Okay. Non, mais merci beaucoup, Claude, en tout cas, pour ce retour... du festival Premier Plan à Angers. Et juste avant, peut-être une petite pause musicale et on reprendra donc avec l'actualité cinématographique et les films qu'on a chroniqués. Je vous propose, alors, comme on va parler du film, je vous propose d'écouter, donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de bandes originales sur les films à l'affiche. Donc j'ai pris un peu sur une sélection et là comme on va parler du film The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh, je vous propose d'écouter donc la bande originale qui a été créée par le compositeur américain Carter Burwell et puis on se retrouve juste après pour en parler. Thank you. et vous êtes toujours sur Radio Campus Orléans avec l'émission Alors on se fait un film consacré à l'actualité cinématographique. Et donc on vient d'écouter un morceau de la bande originale du film The Banshees of Inisherin de Martin McDonagh. Et donc je vous propose qu'on en parle maintenant de ce film. Donc Gob, tu l'as vu, Claude aussi. Bon, super, comme ça on va tous les trois donner un avis. Donc si je commence, donc Martin McDonagh qui est un réalisateur britannique, il a notamment réalisé le film comme Three Billboards qui a été récompensé aux Oscars en 2018 avec l'actrice Frances McDormand, donc qui est vraiment un film vraiment intéressant. Donc là ici pour The Banshees of Inisherin, le film se déroule pendant la guerre d'indépendance irlandaise entre 1922 et 1923 sur une petite île au large de l'Irlande, avec donc deux amis de longue date qui rentrent en conflit car l'un d'eux souhaite juste rompre leur amitié. Voilà rapidement le résumé. Et donc moi j'ai trouvé que grâce à la mise en scène de McDonagh, en fait, installe un climat très très tendu. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant l'ambiance qu'il arrive à mettre en place malgré l'absurdité de la situation. Mais ça montre que cette histoire. Mais ça montre que le quotidien, en fait, de ce village qui est très isolé sur cette île, qui est un quotidien pas facile, répétitif, qui peut devenir du coup usant, ça peut créer des situations, des difficultés dans les relations humaines. Et j'ai trouvé que c'était très original pour justement parler de ces problématiques relationnelles entre ces deux hommes. J'ai trouvé que les personnages étaient vraiment bien écrits, que même le travail de la mise en scène, mais aussi les plans qui sont travaillés comme dans un western. Ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Les plans dans le pub, par exemple, j'ai trouvé ça bien. La lumière, les décors naturels, le jeu des acteurs, des actrices qui participent vraiment, je pense, à la qualité du film. Et aussi le personnage féminin qui est joué par la sœur d'un des deux amis, qui incarne la voix de la raison, qui est aussi très, très intéressant comme personnage, qui finalement décide de partir à la fin, et qui montre un peu que peut-être qu'il faut voyager, il faut rencontrer d'autres gens, se sortir... sortir de ce village et d'essayer de s'ouvrir au monde extérieur. Et c'est vrai que c'est une fin qui est aussi intéressante. D'un autre côté, moi, j'aurais bien vu une autre solution aussi, c'est qu'elle, qui est une femme instruite et qui va travailler dans une librairie, elle aurait pu aussi rester sur cette île et je me disais ouvrir une bibliothèque ou créer des ateliers d'écriture pour permettre à ces villageois de aussi trouver une sorte de liberté et dans justement d'autres activités pratiques artistiques. Et bon, voilà, c'était pas la solution choisie par le réalisateur, mais je trouve qu'il a vraiment été que c'est un film qui est très bien construit. Pardon, Gob, oui. On t'entend pas.
Oui, je voulais rajouter deux petites choses par rapport à ce que tu as dit. Moi, la première chose qui m'a sauté aux yeux, si on peut dire, quand j'ai vu le film, c'est que Martin McDonagh, donc comme tu disais, britannique, irlandais, il est imprégné de culture irlandaise. Et il est évident que la référence numéro un des Banshees d'Inisherin, c'est le théâtre de Samuel Beckett, qui est comme le grand auteur irlandais. Et Samuel Beckett, c'est le théâtre de l'absurde. Et là, on est en plein dedans. On est dans le théâtre de l'absurde de Beckett. Comme tu disais, on nage dans l'absurdité la plus totale. Et il y a un crescendo dans l'absurdité, un crescendo qui va même jusqu'à la violence totale. Et ça, effectivement, il le fait. Il fait très, très bien monter ça en passant d'un absurde grinçant à quelque chose de beaucoup plus dramatique. Et je pense qu'il y a une autre dimension du film qui, pour moi, m'a beaucoup frappé, qui est très, très intéressante. C'est que, effectivement, comme tu le disais, ça se situe au moment de la guerre d'indépendance irlandaise. Et il parle plus largement du peuple irlandais. Et entre ces deux hommes... qui, à un moment donné, ne se comprennent qu'ils n'ont finalement peut-être rien à faire l'un avec l'autre, en tout cas un des deux, c'est tout l'absurde de ce peuple qui est divisé en deux, de cette Irlande qui est divisée en deux, et de ce peuple qui devrait être uni, qui ne l'est pas, qui ne l'est que dans le sport, que dans le rugby, et c'est ça qui pointe du doigt. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu faire. À mon avis,
tout à fait.
Avant tout, c'est il a voulu faire un film symbolique sur la situation de l'Irlande, qui est son pays, qui sont ses racines. C'est aussi pour ça que ça se situe dans ce village. Et moi, le film, en dehors de toutes ses qualités, tu les as dit, c'est vrai qu'il y a d'énormes qualités de réalisation, d'interprétation, puisque les deux acteurs sont formidables et l'actrice aussi formidable. Mais pour moi, c'est un film qui m'a avant tout touché par sa symbolique sur l'Irlande et sur ce peuple qui devrait être uni et qui ne l'est toujours pas pour des raisons ancestrales, pour des raisons de religion, pour des raisons économiques. Et c'est une absurdité. Ça, c'est une absurdité.
Ah, bravo, Gob. Vraiment, oui, tout à fait.
Très bonne analyse que je partage. Je répondrai à Céline que cette femme, en partant, elle se sauve.
Oui, elle fuit.
Parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous est donné de voir dans ce film ? C'est un bonnet qui n'admet pas qu'on lui dise non. Et le deuxième, un parano autodestructeur et manipulateur. C'est les deux personnages importants. Et qui, justement, à la suite de ce refus de plus se voir, eh bien, l'équilibre de la relation est perturbé et ça l'offre l'ouverture à tous les excès et à l'enclenchement d'une spirale destructrice. Alors, il est évident que cela se passe sur une île et qu'il y a toujours une espèce d'aliénation sur une île et que chaque petit... tout le monde est au courant de tout, hein, y compris, bien évidemment, le fighter qui ouvre les lettres et qui les lit. Donc, on ne peut pas être mieux au courant. Mais je crois que ce fait de l'isolement facilite cette aliénation et on s'accroche aux petits riens qui vous permettent simplement de se sentir en vie. C'est ça. Et ça, c'est extrêmement bien rendu et ça complète ce que tu disais. Et c'est un film, bon, vous en avez parlé, qui tient de par la mise en scène avec des personnages très typés. Avec, il faut dire que la nature aide beaucoup.
Évidemment.
Bon, le chef op,
la nature aide beaucoup. Le chef op, il est au top. Et les deux acteurs le sont ici.
Oui, il faut quand même saluer Colin Farrell.
Oui.
Et Brendan Gleeson, qui sont quand même.
Alors, voilà, oui. Et l'actrice qui
récordait. Il aurait pu faire un autre film en fouillant un peu plus les personnages. Mais je crois que ce que tu dis en faisant référence à Beckett sur l'absurdité, c'est absolument ça qu'il y a. Et alors là, moi, il faut que je révise mon histoire, parce qu'il me semblait que l'indépendance de l'Irlande, c'était 1920.
C'était en pleine guerre d'indépendance.
Je croyais que l'indépendance a été acquise en 1920.
Oui, on voit les combats en arrière-fond.
Alors, est-ce que c'est un très grand film ? Je ne sais pas, mais c'est un film extrêmement bien réalisé. Et c'est un film juste où tout est dosé, il n'y a pas d'excès, même s'il se passe des choses complètement absurde.
Il ne faut pas raconter, c'est,
non, verrons encore c'est le pour film. Ça qu'on ne racontera pas. Ouais. Et notamment, il y a une scène avec un chien. Ne la loupez surtout
pas. Oui, mais ne raconte pas.
Non, je ne raconte pas.
Alors, vraiment, on vous conseille de voir ce film.
Oui,
qui
tout
est,
à fait. Qui il y a encore une ou deux séances, apparemment.
Eh bien, moi, je vois une séance. Une séance donc mardi 7 février à 16h20.
Voilà. Bon, voilà, c'est compliqué. Allez-y si vous ne travaillez pas. Si
voilà.
Vous...
Bah, remarque, c'est jour de grève, hein, mardi 7.
Oui, voilà.
Donc,
le matin, vous avez manifesté. Et
l'après-midi,
vous allez au cinéma. Voilà.
Voilà, The Banshees of Inisherin, qui est vraiment intéressant à aller voir. Voilà, passons au deuxième film.
Je termine. Il y a aussi les deux personnages plus une légende.
Oui, effectivement, on n'a pas parlé de la légende du Banshees, de la femme et de la mort.
Qui est complètement annonciatrice de ce qui peut se produire.
Mais les gens qui verront le film comprendront.
Oui, c'est ça. Oui, il faut aller le voir. Eh bien, le film suivant, on vous propose de parler de Nostalgia, de l'italien Mario Martone. Et Gob, tu l'as vu ?
Oui, on était dans la salle ensemble, Céline. Une salle bien remplie. Hein, c'est agréable d'avoir une salle pleine.
Bah, elle est voilà, petite, pour la salle aussi, oui, donc on la remplit pleine, vite. Voilà.
Donc, Nostalgia, donc c'est un film italien de Mario Martone. C'est un très beau film. C'est un vrai film de réalisateur. Alors, on pourrait penser que c'est un sujet peut-être un peu rebattu, hein, Naples, la mafia, des traumatismes liés au passé. Mais voilà, le film, il se bâtit sur autre chose. Enfin, à mon avis, c'est un film qui, sur effectivement, comme son titre l'indique, sur la nostalgie et sur une idée qui est-ce qu'on peut reconstruire le passé. Et on est face à un personnage qui essaye de, à partir d'une culpabilité liée à son adolescence, de reconstruire le passé. Et le film nous dit que ce n'est pas possible. On ne reconstruit pas le passé, on ne reconstruit jamais le passé. Et ce film va s'articuler autour de cette idée et il y a des scènes magnifiques. Le héros s'occupe de sa vieille mère qu'il a laissée depuis 40 ans. Ça donne des scènes intimes et intimistes absolument sublimes. Il y a cette manière de filmer ces déambulations dans Naples d'une manière totalement poétique. On est pris par le rythme du film, on est pris par cette histoire. Et puis voilà, c'est du vrai cinéma. Il y a un vrai regard, il y a une vraie sensibilité. Et on est ému. Et en même temps, voilà, il y a cette sensation du temps qui passe, cette amertume, et c'est un film qui nous bouleverse et qui nous remue à ce niveau-là, parce qu'on est tous confrontés au temps qui passe, on est tous confrontés à un moment à la nostalgie de ce qu'on a vécu, de ce qu'on aurait pu vivre, de ce qu'on aurait voulu vivre, et ce film, il est vraiment là-dessus. Et c'est un très beau film qui vous suivra, auquel vous repenserez et qui vous suivra durablement, à mon avis.
Eh bien, effectivement, je suis d'accord avec toi, Gob, mais je le vois en deux parties, en fait, ce film. Et c'est vrai que la première partie, avec quand il retourne à Naples et qu'il revoit sa mère, c'est très bien filmé. Tout, il prend son temps, Mario Martone. Et toute cette relation avec sa mère est effectivement intense, et j'ai aussi apprécié. Après, sur la deuxième partie, je suis pas vraiment convaincue, parce que c'est encore une amitié masculine qui est un peu perturbée. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Que ça me manquait de fluidité en termes de montage. J'étais parfois un peu gênée. Et même la direction d'acteur, j'ai parfois trouvé que c'était un peu limite. Et il utilise aussi le principe pour les flashbacks. Il fait un changement de cadre et l'image est retravaillée, et je trouvais ça un petit peu trop facile. Voilà, et puis la fin est très attendue.
Je suis d'accord. Mais justement, moi j'ai trouvé que c'était... ouais, après, je comprends tes critiques. Moi j'ai trouvé que justement, c'était peut-être la deuxième partie du film, il est dans une réalité plus abrupte, donc peut-être aussi qu'il choisit là d'être dans une démarche cinématographique différente, parce qu'on est dans quelque chose de plus, dans une réalité plus âpre et plus abrupte, et c'est vrai que oui, c'est cette amitié, comme tu disais, oui, masculine qui ne devrait plus exister mais qui existe encore d'une manière un peu ambiguë. Après, oui, moi j'avais pas forcément peut-être que tu as raison, ouais. Et après, c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je pense que le point faible du film, c'est cette fin qui est sans doute tendue. Mais en même temps, il y a cette volonté d'ancrer le film dans la tragédie grecque et latine. Et même le nom du personnage qui s'appelle Oreste, c'est un personnage de tragédie grecque. Donc voilà. Après, peut-être effectivement que c'est trop attendu. Là, je suis assez d'accord avec toi. Mais c'est quand même un beau film.
Je suis un peu mitigée, mais bon, je préfère aller voir les Banshees. Hein. Eh bien, voilà, je vous propose de refaire une pause musicale avant de continuer. Et donc, dans les bandes originales intéressantes en ce moment, eh bien, il y a le film... Alors, personne ne l'a vu, moi non plus. C'est le film Retour à Séoul.
J'ai noté ça dans mes petites fiches, mais il y a tellement
et
de films.
Oui, je voulais le voir
ça devient
aussi.
Très compliqué.
C'est un film franco-coréen de David Chou et il a fait appel au groupe français Revolver pour la bande originale. Et donc, je vous propose de la découvrir maintenant et on se retrouve juste après sur Radio Campus Orléans. Et vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus Orléans pour l'émission « Alors on se fait un film » consacré à l'actualité cinématographique. Et on continue avec le film suivant que donc Gob et Claude ont vu en salle. Et il s'agit de « Tirailleurs », un film réalisé par Mathieu Vadepied avec notamment Omar Sy à l'affiche. Alors, eh bien, si je...
Donc c'est un premier film de Mathieu Vadepied. Comme dit des fois Claude, je pense qu'il me contredira pas, c'est ce qu'on appelle des fois un peu ironiquement la qualité française. Voilà, c'est un bon film. Voilà, on peut pas tirer sur ce genre de film. Je pense qu'Omar Sy s'est beaucoup investi. Forcément, ça parle quand même, ça rétablit certaines vérités historiques qui sont toujours bonnes à rappeler, et notamment celle des tirailleurs sénégalais ces gens qu'on est allés chercher en Afrique en 1916-1917 pour les envoyer en première ligne au front.
D'accord, ça se passe pendant la première guerre.
Comme chair à canon. Là, il s'agit d'un personnage qui est joué par Omar Sy qui part en catastrophe pour veiller sur son fils qui est en relais de force dans l'armée. Et en fait, les deux personnages vont petit à petit s'éloigner l'un de l'autre parce que le fils, lui, il est pris dans le combat, il est pris par un supérieur à qui il fait une confiance aveugle. Et finalement, il se sent petit à petit investi d'une mission militaire et lui, il veut vraiment vraiment se battre et puis ils pensent que ça va donner quelque chose, qui va servir à quelque chose, qui va voilà. Et il y a toute la différence entre ces deux personnages, celui qui comprend qu'on les utilise et qui sait que tout ça va avoir une fin tragique et qui veut empêcher son fils de rentrer dans ce moule militaire, et le fils qui s'éloigne de son père. Donc ça donne quand même une belle histoire. Après, voilà, c'est pas du très grand cinéma. Il se sort plutôt bien des scènes d'action, des scènes de combat, mais on a vu ça dans tellement d'autres films. Enfin, moi, j'ai pensé au Sentier de la gloire de Kubrick, au récent 1917 de Sam Mendes. Enfin, il y a tellement de films qui ont parlé de la Première Guerre mondiale avec des réalisateurs d'une qualité tellement plus importante. Donc voilà, mais c'est quand même un film à voir pédagogiquement et qui a quand même cette qualité-là, pour moi.
Oui, alors moi, je vais être très, très, très bref. C'est un film extrêmement consensuel. Moi, je trouve très consensuel et qui est uniquement centré sur les relations entre le père et le fils. Et ce film aurait nécessité d'élargir le propos. Moi, j'ai été élevé par un grand-père qui a fait la guerre 14-18. Et je peux vous dire que les tirailleurs sénégalais, les pauvres, on en a fait voir. Les Allemands, d'ailleurs, avaient une trouille, mais monstre, des tirailleurs sénégalais. Parce que je crois qu'ils étaient toujours équipés du coupe-coupe. Oui. Ils étaient toujours équipés. Et les Allemands, alors, dès qu'ils voyaient un tireur sénégalais, ils détalaient, ce qui n'était pas allé, y compris les Prussiens. Ils avaient une trouille monstre de ces troupes d'assaut qu'on mettait, bien évidemment, comme l'a dit Xavier, en première ligne, qui étaient de la chair et canon, mais des combattants extrêmement redoutables et extrêmement courageux. Je pense qu'on aurait pu faire mieux plutôt que de centrer sur cette relation entre père et fils. Il y avait mieux à faire sur les tirailleurs.
Après, évident que le film a été écrit, produit, réalisé pour Omar Sy.
Oui,
et
voilà,
effectivement,
ouais.
Il faut le mettre. Il faut qu'il soit extrêmement présent à l'écran. Il faut le mettre en avant. Et voilà, c'est.
L'histoire tient debout, mais je pense que si on veut parler des tirailleurs sénégalais, il y avait autre chose à dire. J'arrêterai là.
Ok. Eh bien, Claude, est-ce que tu peux enchaîner avec le film Divertimento qui a été réalisé par Marie Castille Mention-Char. Je suis pas sûre de bien le prononcer.
Marie-Camille Mention-Char.
Marie Castille Mention-Char. Voilà, Divertimento.
Oui, je ne connaissais pas cette réalisatrice et je ne sais pas ce qu'elle a fait.
Elle avait fait un très joli film de, alors j'ai oublié le titre, mais sur la radicalisation, sur une jeune femme qui partait, qui se radicalisait, qui partait, c'était avec Sandrine Bonnaire. C'était un très joli film.
Oui, oui. Donc c'est un film qui confronte deux choses, qui confronte les difficultés pour une femme à devenir chef d'orchestre parce qu'elle se heurte aux hommes, et l'autre confrontation, c'est une confrontation de classe entre des musiciens de banlieue et des musiciens du 16e arrondissement ou des beaux quartiers de Paris. Ça, c'est des relations entre jeunes qui sont animées effectivement par la même passion qu'est savoir la musique. Moi, je pense que c'est un film qui est trop lisse. Pour moi, qui est trop lisse. Je pense. Alors, c'est parti d'une histoire vraie de cette femme qui était chef d'orchestre. Et je crois qu'il aurait plus fallu montrer ses difficultés, de la voir beaucoup plus peinée et la voir mettre en scène ses doutes. Et là qu'on ne voit pas trop, on la voit un petit peu, mais pas trop. Donc c'est un film un peu trop lisse. Il y a une interprétation magistrale de Neil Astrup. Dans ce film, il est en professeur de chef d'orchestre.
Mais Nils Astrup est toujours bien.
C'est toujours exceptionnel. Mais surtout, ces deux confrontations sont quand même bien mis en valeur et extrêmement, je veux dire, étudiées et fouillées. Mais il aurait peut-être fallu en plus approfondir les doutes de cette jeune femme, cette jeune fille, qui est animée d'une passion folle, mais qui, d'où elle vient, d'une part, et sa position de femme, on aurait pu se la voir plus douter qu'elle ne doute, très soutenue d'ailleurs par sa famille. Mais c'est un film extrêmement agréable à voir. Moi, j'ai pris, je ne sais pas, il n'est pas loin de 2 heures, 1 heure et quelque chose. C'est passé très facilement. C'est vraiment un film. Les vacances arrivent, c'est vraiment un film agréable. Mmh. Et qui parle d'un sujet, de deux sujets qui sont très, très importants.
Ok. Et je vois que le film dont vous parliez avec Sandrine Bonnaire, c'est Le ciel attendra.
Voilà.
C'est ça.
Qu'elle a réalisé en 2016. Voilà, si vous avez l'occasion de le trouver aussi sur les plateformes. Ok, donc Divertimento, un film à
oui,
voir.
Oui, à voir, oui, oui.
Eh bien...
Il y a Tar qui est sur un sujet sur la musique aussi, similaire. Oui. À voir aussi. Hein.
Aussi, oui, je ne l'ai pas encore vu. Et,
mais ouais, là, c'est effectivement avec d'autres... avec des vedettes, comment
avec Kate Blanchett.
Avec une vedette.
Avec une vedette. Et alors que là, y a, dans ce film-là, il n'y a pas de... À part Neil Reithrup, mais il fait juste une participation. Mais le film ne tourne pas autour de lui.
Eh bien, on passe au film suivant. Vous vouliez parler des Cyclades. Oui.
Alors, tu l'as vu, toi,
non.
Alors, moi, je l'ai vu.
Tu l'as vu, toi,
je l'ai vu. Je ne sais pas si j'ai envie d'en dire quelque chose, mais vas-y, je commence.
Vas-y.
Vas-y, oui.
Écoute, on parlait de vedettes. Dedans, il y a notre vedette orléanaise, Lorca Lamy, qui est venue au Carme le présenter. Puisqu'elle vient présenter tous ses films, c'est-à-dire qu'elle vient à peu près tous les mois, puisqu'elle a à peu près, ou tous les deux mois, puisqu'elle a un film qui sort tous les deux mois. Voilà, moi, je, écoute, c'est pas un mauvais film. Moi, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Lorca Lamy, moi, j'ai trouvé qu'elle est vraiment juste dans le film, même si c'est le genre de rôle qu'on lui a souvent vu jouer, mais j'ai trouvé qu'elle était quand même juste dans ce rôle de femme fantasque, rattrapée aussi un peu par sa vie. Et puis, on en parlait tout à l'heure hors micro avec Claude, on disait qu'on a des acteurs formidables en France qu'on ne voit pas assez, ou qui font plutôt carrière à la télé, ce qui est le cas d'Olivia Cotte, qui est une actrice formidable, qu'on ne voit pas assez, qui est absolument formidable dans ce film. Et puis il y a Christine Scott Thomas qu'on voit plus beaucoup, qu'on n'a plus vu depuis longtemps, qui est juste aussi, qui fait un rôle vraiment très intéressant, qui a une scène formidable pour moi, où elle, une scène, bon, on ne dira pas ce qui se passe, mais où je trouve qu'elle passe du fantasque au tragique, avec beaucoup de talent. Et moi j'ai trouvé, voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, Claudia, des films qui sont pas inoubliables, qui sont pas exceptionnels, mais qui se suivent avec un certain plaisir parce qu'ils sont bien écrits, bien joués par de très bons acteurs. Et moi j'ai passé, on va dire pas loin de 2 heures, agréable, dans une Grèce bien photographiée. Voilà, mais je sens, Céline, que tu ne vas pas être d'accord avec moi, alors je te laisse le micro.
Non, disons que je vais pas non plus descendre le film. Hein. J'ai pas, c'était un moment plutôt aussi agréable. J'ai pas été transcendée. Pour moi, c'est pas. Je pense pas que ce soit un film de cinéma, en fait. J'ai pas été très convaincue. Puis le sujet, donc c'est ces femmes qui aussi. Qui finalement se retrouve pour des raisons d'histoire avec des hommes avec qui ça se passe pas forcément bien. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était même aussi un peu cliché chaque personnage joué par chacune des actrices. J'ai pas été vraiment convaincue.
Après, je pense que le sujet, c'est aussi, est-ce que là, c'est entre deux femmes, ça pourrait être entre deux hommes ou entre un homme et une femme. C'est l'amitié. Est-ce que l'amitié, voilà, est-ce que ce qui constituait une amitié à un moment donné peut encore fonctionner 40 ans après? Je pense qu'il y a aussi un vrai sujet à ce niveau-là. C'est voilà, est-ce qu'on peut reconstruire de façon artificielle des liens, même si je suis d'accord avec toi. Après, c'est peut-être un peu facile de dire que ces femmes que tout oppose vont finalement de nouveau fonctionner ensemble à un moment donné. Voilà, mais ça pose de vraies questions aussi. Tu sais, on est dans une époque avec les réseaux sociaux et tout. On essaye beaucoup des fois de reconstruire de façon un peu artificielle des relations, le passé et tout. Et je pense que ça pose peut-être des questions intéressantes à ce niveau-là, à mon avis.
Oui, tu as peut-être aussi, tu as sûrement raison, tu as toujours des très bonnes analyses. Et moi, je ne me suis pas retrouvée dans ce film. Et les caractères des personnages, je les ai trouvés un peu extrêmes entre Olivia Cotte et Lorca Lamy. C'était un peu les extrêmes et je trouve que c'était un peu simple, un peu simpliste. Mais bon, après... pour moi, c'est pas un film que j'ai envie de voir au cinéma, en fait. J'ai pas. Okay. Mais après, ça fonctionne. Ça
oui,
fonctionne.
C'est... Oui, c'est vrai. Tout à fait.
Alors, On finit. Vous voulez parler d'autres films ou je fais une pause musicale?
Je voulais quand même parler de.
Ah oui, de Babylone.
Mais oui.
Eh ben, allez.
C'est un film.
Damien Chazelle, l'homme qui a failli avoir l'Oscar. Oui. Rappelle-toi, alors, Claude.
Oui, pour.
Pour La La Land.
Pour La La Land.
Oh là là. Nous sommes, heureusement qu'il l'a pas eu.
Là, nous sommes pas du tout dans.
Dans La La Land.
Dans La La Land et dans la musique.
Ah ben, bah, je vais peut-être aller le voir alors.
C'est quand même un film à 80 millions de dollars.
Ah ben, bah, il a les moyens maintenant, Damien Chazelle.
Avec une
il est renommé maintenant.
Avec une interprétation assez, j'allais dire, exceptionnelle de Brad Pitt et de Margot, j'ai oublié son nom.
Robbie.
Margot Robbie. Bon, qui sont grands acteurs. Alors, c'est un film sur la démesure avec virtuosité. Et c'est vraiment le plaisir au cinéma. Moi, ça dure 2h59, je crois. Je ne vais pas tenir 2h59. Je ne les ai pas vus passer. Il y a un rythme. Alors, il y a un rythme musical dans ce film. C'est vraiment le rythme du batteur. Quoi.
Ah, mais Claude, tu es... Oui.
Oui.
Parce que tu penses à Whiplash.
Bah, voilà.
Son premier film.
Et c'est quand même un film qui est fait sur... où il a pris pour modèle une actrice et un acteur, je ne suis pas très sûr de ce que je dis, lors du passage du muet au parlant. Il y a des acteurs qui n'ont pas pu passer du muet au parlant, soit parce qu'ils avaient une voix de canard, comme on dit dans une, et puis l'autre, je ne sais plus ce qu'il n'arrivait pas à faire. Il y a une scène, moi, qui résume absolument ce passage du muet au parlant, c'est la scène de la petite croix, où c'est Margot Robbie qui doit dire un truc, et naturellement, à l'époque, on n'avait pas les perches. Il y avait un micro qui était suspendu et il y avait une croix pour se mettre là. Et je crois que la scène, elle était tournée cette fois. Et c'est exactement ça. Et les croix, moi, ça me rappelle. J'ai fait du théâtre. Il y avait des croix aussi pour les déplacements. Et quand je loupais une croix, mais le prof de théâtre, il dit, mais Claude, bon Dieu, elle est là, la croix, là. T'es à 50 cm, c'est là, la croix. Et je pense qu'à cette époque, ça se passait comme ça, parce que le micro, il était suspendu, et pour être enregistré, il fallait être là. Mais là, c'est une scène qui démontre... Mais c'est un film sur la démesure, sur la drogue, sur la sexualité dans tous les sens, sur la mafia qui a pénétré le milieu du cinéma. Ce que j'ai pas trop vu dans ce film, et je pense quand même que ça devait exister, c'est le rôle des majors et des patrons. On le voit, et le rôle des majors et des patrons de majors. Là, on les voit, mais pas, je veux dire, ils sont pas omniprésents comme ils devaient l'être à l'époque. Alors, est-ce que je connais, il faudrait demander à notre ami professeur de cinéma, est-ce qu'à cette époque-là, Le cinéma était aux mains des acteurs ou il était aux mains des majors? Je pense que
Tu sais, en fait, moi, j'ai pas encore vu le film, mais je pense que ce qui est intéressant, comme tu le disais, c'est que c'est une époque de très importante, c'est une époque de transition, c'est une époque d'extrême ébullition.
Ah,
et
oui,
je pense que moi, j'ai vu plusieurs bandes annonces. Je pense que moi, ce que j'ai vu des bandes annonces, je pense que Chazelle a traduit assez bien cette espèce d'ébullition et de démesure, comme tu disais, du cinéma hollywoodien de l'époque, qui entre, effectivement, je pense à ce moment-là, dans une phase de starification totale des acteurs, dans une phase d'ébullition et de démesure totale, avec ces grandes fêtes délirantes, avec voilà. Et on est vraiment là-dedans, dans cette espèce de délire. Et en même temps, comme tu le dis, à l'époque, je pense que les majors ne régnaient pas encore. À l'époque, c'est le règne des grands producteurs. C'est l'époque de David O. Selznick, c'est l'époque de Harry Cohn, c'est l'époque de tous les grands producteurs américains qui étaient, comme tu disais tout à l'heure, en parlant d'autre chose, je ne sais plus de quoi tu parlais, qui étaient des gens qui aimaient le cinéma, qui connaissaient, qui comprenaient le cinéma et qui, des fois, effectivement, intervenaient sur des films et les rendaient meilleurs. Comme Selznick, par exemple, qu'autant sur Autant n'importe le vent, sur d'autres films, ou Rebecca Hitchcock et tout, qui a rendu meilleur beaucoup des films qu'il a produits en intervenant de façon autoritaire sur ces films. Et je pense, pour moi, j'ai pas encore vu le film, je le verrai, mais je pense que pour moi, Chazelle, il a voulu faire un film sur... il a choisi cette époque-là parce que justement, il voulait montrer ce bouillonnement créatif, cette démesure. Et d'après ce que tu m'en dis, Claude, il me semble qu'il a réussi son coup.
Il a parfaitement... Enfin, je sais pas, j'ai pas lu de critique, j'ai rien lu à ce sujet de ce film, mais je veux dire, si le cinéma n'est pas la démesure, on n'y sera jamais.
Je crois qu'aux États-Unis, il ne marche pas du tout, hein, le film.
Non, je crois que le film ne marche pas aux États-Unis. Et même chez nous, Les critiques sont très divisées.
C'est pas très bon.
Même chez nous, les critiques sont très divisées.
Et on lui reproche quoi, ce film ?
Je sais pas, moi j'ai lu deux ou trois critiques. Justement, on lui reproche d'être de se regarder filmer, les reproches habituels sur certains films un peu baroques, un peu ou qui jouent un peu cette carte de d'une certaine démesure, Mais comme tu disais, Claude, je pense que le cinéma, on l'a souvent dit ici, c'est du visuel et c'est du spectacle. Et qu'est-ce qui fait en ce moment les gens retournent au cinéma ? Et alléluia, les gens retournent au cinéma parce que les gens veulent voir du spectaculaire. Voilà, on n'a pas parlé d'Avatar. Je pense qu'aucun de nous ne l'a vu, le nouveau Avatar.
Si,
tu l'as vu, toi. Voilà. Et après, moi, je l'ai pas encore vu. Je sais pas si je le verrai. Je pense qu'il faut quand même que j'essaye d'aller le voir en salle.
Ah oui, allez-y.
Dans toute cette énorme actualité. Mais en tout cas, les gens veulent voir du spectacle, veulent voir des choses qu'ils ne verront pas sur leur écran de télé, et ils retournent au cinéma pour ça. Et je pense qu'un film comme Babylone fait partie de ces films spectaculaires que les gens ont envie d'aller voir en salle. Et tant mieux que les gens retournent en salle.
Mais les gens
ne
vont pas
le
voir. Hein. J'ai pas l'impression qu'il fonctionne aussi auprès du public. Hein.
Je sais pas.
En tout cas, aux États-Unis, il n'a pas marché. Hein.
Je sais en tout cas que, tu vois, par exemple, sur Orléans, il est maintenu. Il est dans deux salles au Pathé. Mm-hmm. Il passe au Carmen, tout. Donc, je pense que c'est quand même un succès. Ça doit être quand même un petit succès. Mm-hmm. Ne serait-ce que sur le nom de Chazelle, qui est quand même devenu un nom quand même.
Oui, suite à La La Land.
À voir.
Ah non, c'est un, moi, s'il n'y avait pas autant de films qui sortaient, je retournerais le voir. Et pourtant, en 3 heures, pour le plaisir du cinéma. Il y a un rythme. Moi, il y a une virtuosité dans la mise en scène, moi, qui me surprend. Parce que je t'engage à aller le voir, toi, qui as fait du cinéma, pour voir c'est complètement l'opposé du cinéma que j'aime, avec des plans très posés, peu d'images, avec des longs travelling. On est dans un rythme complètement. On a l'impression que c'est un batteur qui a fait le montage, quoi. Mais c'est pour moi exceptionnel.
T'as pratiquement convaincu Céline d'y aller. Je sens à ton regard que tu l'as pratiquement convaincu d'y aller.
Je suis émerveillé par la virtuosité de la mise en scène. Qui est pas facile à faire. Il y a un montage.
Si tu m'as vendu du rêve,
Claude. Et puis, on va terminer. N'oubliez pas d'aller voir Dounia,
Princesse d'Alep.
C'est alors là, dans un autre registre, mais c'est un très beau film, très très beau film, d'un humanisme rare.
Et là, il semble que la critique soit vraiment unanime sur ce film d'animation. Moi, j'ai lu un peu partout, magnifique, emmenez vos enfants. Je pense que là, Claude, on peut te faire confiance sur ce coup-là.
Eh bien, voilà, avec nos suggestions, nos critiques, analyses, ces chroniques vous auront peut-être aidé, guidé,
suscité. C'est compliqué là, en ce moment.
Oui.
C'est très, très compliqué.
On espère que ça vous aura donné envie d'aller au cinéma. Et oui, Claude, tu voulais...
Oui, j'ai une réalisatrice que j'aime bien. C'est Lucie Berlotto, qui avait fait, souvenez-vous, Fidelio. C'est un film très intéressant. C'est un film de femme. Hein. Et là, elle refait encore un film de femme qui s'appelle « À mon seul désir ».
Okay.
Il n'est pas encore sorti, mais c'est un film curieux sur l'histoire d'une femme qui ouvre une porte de boîte de striptease.
Eh bien, merci aussi pour ce conseil.
Et elle la referme après.
Et donc...